5-0-1-4. Ces putains de quoi j'applique. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la clique. 7-5-0-1-4.
Si tu fermes les yeux quand je rappe, tu vois New York. J'suis taillé dans du bois des peines. Ces rappeurs sont taillés dans du bois de Boulogne. J'ai le recul, la bonne cadence, les grandes capacités. Alpha est une arme à feu. Sectaire comme la mafia, mais j'fais pas le mafieux. J'essaye d'être moins superficiel. J'm'améliore, mais j'pars de loin. Les gens qui portent le plus de marques sont souvent ceux qui me marquent le moins. J'suis dans le rap jeu, même si le business est sombre. J'devrais sponsor Smith et Wesson. Elle a kiffé le veston accordé à ma paire de JM Weston. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la clique. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la clique. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. J'instaure un régime trop militaire pour être payé comme un haut dignitaire. Nick Roupillet va chercher ce que le monde te doit. Y'a aucune barrière contre toi. 200 visions, j'ai détecté l'indétectable. Les noirs à la télé sont pas respectés ou pas respectables. Certifié disque Roro, sans entrer dans la playlist de Lolo. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Philippe Flingo, le flow Pinel. Enseignant au niveau OG maître. Mon négro protège ta peau, tu sais déjà. Il n'y aura jamais de l'eau binègre.
Si je dis let's go, crie let's get it. RPTG c'est la gimmick. Flow présidentiel, j'impose ma politique. Mes baskets sont cool mais mon regard est strict. Super bullet, j'ma coupe. Je la fais tousser, elle a pas la toux. A pas de lui, je suis dans le bloc où les spots. Mon négro me pousse pas, j'emprunterai un club.
Monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche ta tech. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la tech. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. Tu sais comment marche la tech. Tu sais comment marche la tech.
Vous écoutez News FM.
News FM.
Bon après-midi. Il est 13h.
Parents live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous.
Sur Parents live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents live sur parentslive.fr.
Yes, et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Parents Live. Et oui, comme tous les mois, comme tout le deuxième mercredi du mois, on est là avec Flo. Salut Flo.
Salut Greg, ravi d'être en studio.
Bah ouais, grave, ravi de te recevoir après toutes ces fêtes, après tous ces temps d'attente. On est content de se retrouver donc pour l'émission Parents Live. Vous l'avez entendu dans le générique, hein, Parents Live, l'émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes, avec plusieurs sujets déclinés chaque mois, Flo. C'est bien ça.
Exactement, et puis la programmation qui va arriver très prochainement, guettez le site et le Facebook.
Bien sûr, donc parentslive.fr et la page Facebook Parents Live.
Avec un S.
Exactement. Et puis aujourd'hui, on a une thématique, donc une nouvelle thématique, et qui s'appelle, j'aime bien le nom que tu lui as donné, tiens, 1 plus 1 égale 4 en famille avec des jumeaux.
Ben ouais, parce qu'en France, en fait, les chiffres, c'est fin 2019, les naissances multiples, ça représente 1,6% des accouchements. Donc ce petit chiffre cache en fait une augmentation de plus de 70 à 80% des accouchements gémellaires depuis 40 ans. Ce boom des jumeaux, c'est lié à l'âge des mamans. Plus en fait l'âge est élevé, plus il y a de chances d'avoir des jumeaux. Et aussi au traitement lié à la fécondité, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de stimulation ovarienne et de procréation médicalement assistée. Et si les jumelles et les jumeaux ils font grimper les courbes des statistiques, à l'inverse, ils ont tendance, en tout cas dans leurs premières années, à mettre à plat leurs parents. On le verra tout au long de l'émission, l'arrivée de deux bébés en même temps, c'est un choc ou un gros bonheur et souvent en fait les deux à la fois. Comme toujours dans cette émission, pas de leçons, pas de recettes, pas d'expertise, simplement du partage d'expériences. De la naissance, de la grossesse multiple à la scolarité, en passant par l'organisation et l'entourage, on va entendre des discours et des vécus très variés de parents de jumeaux encore petits ou déjà grands Prenez ce qui vous parle, partagez si ça vous plaît, et on espère que cette écoute vous rassurera et si besoin vous déculpabilisera.
Avec nous en studio, nos invités du jour, Sarah, 3 enfants dont 2 jumeaux, garçon-fille de 16 ans.
Bonjour.
Bonjour. On a un garçon de 6 ans également, c'est ça,
c'est ça.
Voilà. Donc vous êtes salariée de l'association Jumeaux et Plus.
Oui, c'est ça, je suis la coordinatrice.
Yes. Claudine, 2 jumeaux, garçon-fille de 22 ans.
Bonjour.
Bonjour. Et puis Raphaël, 3 filles dont 2 jumelles de 2 ans et demi et une fille de 4 ans et demi. C'est bien ça ?
C'est ça, bonjour à tous.
Bonjour, et puis vous êtes tous deux au conseil d'administration.
Oui,
c'est ça, fait. De l'association Jumeaux et Plus. Voilà, on entendra aussi, Flo, nombreux témoignages de parents et d'enfants enregistrés, que tu as enregistrés en amont de l'émission, et que tu remercies chaleureusement, qu'on remercie chaleureusement. Il s'agit de Déborah, Laura, Patrick, Annabelle, Gwen, Laïsa, Baptiste et Maëlle.
Et ouais, et on fait une petite dédicace aux filles de Déborah qui ont 11 ans aujourd'hui.
Eh ben, bon anniversaire, les filles.
Bon anniversaire. Bon anniversaire.
C'est te classe.
Ouais, donc on commence. Forcément, fonder une famille, ça commence par une annonce de grossesse. Et la première échographie, c'est souvent très attendu. C'est là qu'on va entendre pour la première fois le cœur de son bébé, qu'on va voir le fœtus pour la première fois. Puis parfois, on a une surprise et puis on n'entend pas un battement, mais deux. On ne voit pas un fœtus, mais deux. On va écouter Gwen au moment qui est donc une mère de 3 enfants, une fille de 8 ans et qui a 2 jumeaux de 5 ans. Et ben, 2 bébés, en fait, ce n'était pas vraiment dans ses projets. On va l'écouter.
On est un couple de femmes. Pour remettre un peu dans le contexte, ce n'était pas facile quoi, d'être enceinte. Très rapidement, en fait, on a eu une écho de contrôle. C'est là qu'on a vu qu'il y avait potentiellement 2 bébés, dont un pour l'instant, au tout début, qui ne se développait pas. Enfin, au début, je me disais, il y en a un qui ne va pas se développer, quoi. J'en ai peut-être pas 2, quoi. Je suis peut-être sauvée finalement. Et en fait, non. Le deuxième s'est développé heureusement. Et moi, je l'ai vécu, mais vraiment, je me sentais pas du tout capable. J'avais vraiment besoin d'un schéma de grossesse simple après tout ce qu'on avait traversé. L'infériorité numérique, ça a vraiment été le truc qui me stressait, quoi. On sera que 2, ils seront tout petits, ils seront 3. Comment on va faire? On était en appart, et l'appart était plus assez grand. La voiture, c'est tout bête. Pourtant, on avait une voiture type SW, quoi, avec un grand coffre. Ça tenait plus, alors qu'avec 2 gamins, ça tient. Il y avait le matériel du tout de suite, quoi, l'appart, la voiture, ils vont être trop nombreux, nous pas assez. Et puis la projection dans le futur, tout du plus concret et même du plus simple à résoudre au plus lointain, au plus diffus, tout me semblait insurmontable, en fait.
Donc voilà, on a entendu Gwen, pour elle, c'était insurmontable, cette annonce. Raphaël, vous pouvez compléter ce témoignage, je crois, parce que pour vous aussi, également, ça a été compliqué, cette annonce de la grossesse gémellaire.
Oui, ça a été compliqué, c'était juste absolument inattendu, et presque inenvisageable, pour les mêmes raisons. L'appartement, la voiture, tout ça, c'était pas prévu, pas
anticipé, pas fait pour,
rien qui est fait pour. D'ailleurs, ça l'est toujours pas. on est toujours au 4e sans ascenseur. Bon, voilà, on a réussi, on l'a fait. Mais et voilà. Et puis aussi, c'est venu réactiver des choses qui avaient été difficiles à l'arrivée de la première, sur le réaménagement de la vie, tout ça. Et là, c'est vrai que 2 bébés, c'était. Nous, on partait dans le schéma classique en se disant, ça y est, un deuxième bébé, ça sera. On sait faire, on saura faire, c'est cool. Et puis en fait, 2 bébés, on ne savait pas faire, quoi. Voilà. Donc, on a eu 15 jours de gros stress là, sur savoir si on allait les garder, pas les garder. Et puis voilà. Et puis au final, les choses se sont faites. On a décidé presque au dernier moment de les garder finalement. Et voilà.
Et elles sont là.
Elles sont là.
Et on va voir tout au long de l'émission comment ça se passe. On va écouter à présent Laura, qui est mère de 2 jumeaux, garçon-fille de 3 ans et demi.
J'ai appris que j'attendais des jumeaux un jour où je suis allée à mon rendez-vous médical parce que je savais que j'étais enceinte et voilà, je voulais voir si tout était OK et connaître la suite du programme. J'ai eu la chance d'avoir une écho, donc j'étais enceinte de à peine 3 semaines. Et là, le médecin m'a regardée en me faisant un petit V de la victoire. Et je me suis dit, chouette, ça a marché, tout est au bon endroit. Et en fait, il m'a dit, mais vous comprenez pas, il y en a 2. Donc, j'ai beaucoup rigolé. Je me suis dit, mais comment on va faire? Donc, sortie de ce rendez-vous avec le médecin, j'ai appelé mon petit mari qui était au boulot et je lui ai dit, assieds-toi. Donc, je lui ai fait un peu peur. Je lui ai dit tout va bien, ne t'inquiète pas, j'ai entendu les deux petits cœurs battre. Donc il a rigolé aussi, il pleurait à moitié et il m'a dit bah qu'est-ce qui pouvait être mieux que d'en avoir un, c'est d'en avoir deux.
Un acheté, un offert.
Donc on voit bien qu'il y a mille façons d'aborder cette annonce, ce bouleversement pour certaines familles, et que chaque réaction est propre à chacun en fait, en fonction de son histoire, son parcours, son projet familial, et que c'est pas parce qu'on a eu cette réaction au départ que ça va influencer après sur l'arrivée des bébés. Donc on va l'entendre, la grossesse peut aussi être également vécue de façon très différente selon les femmes et les couples. Les grossesses gémellaires, elles sont quand même considérées à risque, hein, c'est-à-dire que notamment de prématurées pour les bébés. Ça nécessite donc un suivi plus important, du soutien quand c'est possible de la part du deuxième parent, car souvent, les mamans, elles vont être alitées assez tôt. On va écouter Laura rapidement sur son vécu de la grossesse.
J'ai eu la chance de la vivre super bien. D'ailleurs, je pense que c'était un des meilleurs moments de ma vie. J'ai perdu du poids. Et c'était bien dans mon cas, apparemment. Je me sentais vraiment super en forme. J'ai bougé jusqu'à la fin. Voilà, le moment du congé avant d'accoucher, ça c'était génial parce que j'allais manger avec mes copines à Grenoble et je revenais chez moi regarder une série d'après-midi et profiter.
Donc voilà, la plénitude pour Laura. À l'inverse, pour Gwen, même si physiquement tout s'est bien passé, elle a eu beaucoup d'angoisse, on va l'entendre.
J'étais vraiment très très malade les 3-4 premiers mois, donc c'était compliqué. Plus toujours, c'était une affirmation, hein, en boucle, je me répétais, je vais pas en être capable. Et puis, même si c'était dur, j'ai quand même eu la chance d'avoir une grossesse gémellaire malgré tout sans difficulté. J'ai travaillé jusqu'à 5 mois et demi de grossesse. Et ça aussi, mine de rien, ça m'a aidé, quoi. Ça me montrait que, bah, déjà, sur la première partie, a priori, j'en étais capable. Et ça a été très dur, en fait. Le contre-coup, c'est justement quand j'ai arrêté de travailler, que j'ai eu plus que ça, en fait, à faire, quoi, m'occuper de finir, de mener à bien cette grossesse. Ça a vraiment été très, très compliqué pour moi psychologiquement.
Voilà, donc pour le vécu de la grossesse de ces deux mamans, qui est différent, mais qui reflète ce que peut vivre chaque femme. On a fait le choix de ne pas aborder la question de l'accouchement, parce qu'on s'est dit en fait que parler d'accouchement sans qu'il y ait de personnel soignant qui peuvent apporter des précisions, ce serait plus stressant qu'autre chose. Par contre, on invite les parents de jumeaux qui nous écoutent à se rendre aux réunions d'information qui sont proposées par l'hôpital Couple Enfant de la Tronche et l'association Jumeaux et Plus pour poser toutes vos questions à ce sujet. La prochaine, c'est le 3 février à 19h30. Vous aurez aussi cette info sur le site de Jumeaux et Plus. On en parlera en fin d'émission. On vous invite également, si vous avez envie d'avoir des renseignements sur l'allaitement, à vous rendre à une réunion qui aura lieu le 1er février à la Cité des Familles en matinée à 10h et qui sera animée justement par des personnes sur la question de l'allaitement pour les jumeaux, donc l'allaitement maternel pour les jumeaux. Donc, passé l'annonce de la grossesse, il faut pouvoir se préparer au niveau matériel, au niveau familial, au niveau professionnel. Et tous les interlocuteurs que j'ai eus pour préparer cette émission, ils ont insisté sur l'importance d'anticiper un maximum de choses avant la naissance. Parfois, en tant que parent, on a quand même envie de faire un peu à sa sauce et on n'accorde pas toujours d'importance aux conseils qu'on nous donne.
Justement, Raphaël, vous, pourquoi, toi, je peux te tutoyer,
oui,
on est bien, on est ensemble. Ouais. Pourquoi tu t'es fié au retour d'expérience de parents de jumeaux, t'as rencontré, t'avais besoin de...
Eh ben, en fait, on a rencontré, on a discuté, j'avais un cousin aussi qui avait eu des jumeaux, et dans la même configuration que nous, avec un grand un peu plus haut, et voilà, et tous, on a trouvé quelque chose dans les discours qui nous ont, enfin dans les discours des parents, quelque chose de régulier, de récurrent sur l'âge jusqu'à 3 ans. Tous nous ont dit jusqu'à 3 ans, ça sera galère. Après, ça va mieux. Il faut anticiper les choses. Et en fait, on a à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a fait tilt. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, on s'est dit, mais en fait, si. Pardon. Il faut qu'on écoute ces parents-là, il faut qu'on écoute ces retours d'expérience, on ne sera pas meilleur que les autres. Et c'est au final, je crois que c'est ce qui nous a permis de passer le cap, en fait, parce qu'on s'est donné les moyens de préparer, bien sûr, le matériel, mais aussi de préparer l'accueil des enfants, que moi, je puisse rester à la maison, qu'on puisse être deux dans cette épreuve et vraiment dans ce passage-là. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de passer le cap, en fait.
Ouais, ça vous a aidé à désamorcer un peu le stress et désamorcer la pression de parents idéal à l'avenue des jumeaux, quoi.
C'est ça. On savait que les retours d'expérience, c'est ça. Ça sera de toute façon difficile. Donc, du coup, il faut s'y attendre et il faut s'y préparer. Comme on prépare un grand événement sportif ou autre chose, c'est vrai. C'est difficile. un ultra trail, c'est difficile, et ben on s'y prépare, et ben là c'est pareil quoi.
D'accord, puis on verra concrètement aussi au fur et à mesure de la mission comment vous vous êtes préparé, notamment par rapport au congé parental, au soutien aussi que vous avez au quotidien, donc ça, ce sera développé un peu plus loin. Donc pas hésiter donc à se rapprocher des associations comme Jumeaux et Plus qui sont très présentes et très actives, et des personnes qui ont vécu la même chose, ça peut être des atouts précieux. Claudine, vous, au niveau matériel, c'est quoi vos indispensables?
Alors, au niveau matériel, je dirais qu'il faut s'équiper de maximum de choses qui peuvent faire gagner du temps. Donc, je dirais la table allongée. Hein, on essaye de savoir où est-ce qu'on la met, et de manière à ce que ce soit le plus efficace possible. On s'achète un bon lave-linge, hein, 7 ou 8 kilos, comme ça on peut laver pas mal de choses. Un sèche-linge si on en a besoin. Le lave-vaisselle, ça fait partie des indispensables, mais tous les appartements ne sont pas forcément équipés pour ça. Un micro-ondes pour le repas des parents, pas des enfants, hein, c'est interdit. On achète un canapé confortable parce qu'on va y passer beaucoup de temps. On va nourrir les enfants dans le canapé, on va les bercer dans le canapé. Et on va avoir un dos en compote à un moment donné. Donc mieux le canapé est bon et mieux on va se porter. On se prépare des plats à l'avance pour pouvoir les décongeler après. On pense à la livraison des courses. Ça, c'est très important, notamment pour les couches, hein, parce qu'il y en a quand même quelques centaines au départ. Ça représente un gros volume. On prépare la liste des naissances. Donc, tout le matériel dont vous auriez besoin pour éviter d'avoir à l'acheter, eh ben, vous mettez sur une liste de naissances. Et puis, ça évite d'avoir... le même pyjama en double qui ne sera pas forcément adapté à la saison dans laquelle les enfants naissent. Et puis voilà, on fait le tour des copains de la famille pour récupérer du matériel, des vêtements, parce que les enfants vont grandir vite et que ça ne sert à rien d'acheter tout ça. On fait les vides de grenier et les bourses de l'enfance de Jumeaux et Plus notamment. Et puis voilà. Ça fait déjà pas mal. Hein.
Ça fait déjà pas mal.
On prépare aussi le faire part de naissance. Ça aide à gagner du temps. On anticipe.
On va oublier de le faire et puis on l'envoie un an après.
Il y a un mot, on anticipe, mais on le fait tranquillement tout au long de la grossesse, sans stress.
Et si possible à deux.
Et
voilà, quand il y a le deuxième parent.
Bien sûr.
On rappelle que Jumeaux et Plus met à disposition du matériel de puériculture, dont la fameuse poussette double avec les cosiers adaptés pour les trajets en voiture, qui est très onéreuse quand elle est achetée neuve. C'est plus de 1 000 euros. Hein. Moi, j'ai un peu halluciné sur les prix. On se rapproche aussi des grands-parents, si on a besoin de réaménager son domicile. Raphaël, ça a été votre cas?
Ça a été notre cas, surtout. Alors, il faut avoir des grands-parents qui savent bricoler, évidemment. Mais voilà, mon beau-père, lui, est très fort là-dedans. Il nous a beaucoup aidés. Il nous a fait quasi toute la chambre, parce qu'il fallait qu'on fasse une chambre en urgence. Donc, il nous l'a faite. Voilà, surtout, on fait appel aux compétences qu'il y a dans l'entourage, en fait, pour déléguer certaines choses qu'on n'aura pas le temps de faire.
Ouais. Et donc là, on voit que l'aspect matériel, c'est important. Ce qui est également indispensable, c'est de pouvoir se projeter sur ce qui va se passer et répartir les tâches entre les adultes présents et anticiper aussi l'aide qu'on va pouvoir avoir, qu'elle soit extérieure ou celle de l'entourage. On va entendre Gwen et Laura sur leur expérience quand elles sont rentrées à domicile juste après leur accouchement, avoir passé, suivant les personnes, entre une semaine et 15 jours à la maternité.
J'avais très très peur de partir de la clinique parce que là-bas je me sentais très protégée. Et puis après il n'y a plus de questions de toute façon une fois qu'ils étaient là d'acceptation ou pas, parce que le but, enfin je crois que j'avais l'impression de même plus avoir le temps de réfléchir quoi. Il fallait être là debout, s'occuper des trois et en fait c'est juste au fur et à mesure des semaines que tu te dis on y arrive, on tient debout. C'est les 7-8 premiers mois de la vie des garçons. Alors d'abord, j'en ai très peu de souvenirs concrets. J'en ai des souvenirs à travers les photos. Et c'est quand je vois les photos que je me dis « Ah oui, il y a quand même eu des beaux moments ». Moi, pour l'image, j'ai l'impression un peu d'avoir la gueule de bois pendant 8 mois parce que je les ai allaités tous les deux. Et en fait, c'était une fatigue permanente, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que voilà, la privation de sommeil, c'est un élément de torture. Et pourtant, voilà, enfin, je regrette pas du tout de les avoir allaités. J'ai eu aussi des bons moments, notamment la nuit quand ils étaient, je les prenais en allaitement seul, alors que le jour, c'est vrai que j'essayais de les caler, donc je les prenais tous les deux, donc c'était un peu la guerre, quoi. Alors que la nuit, c'était vraiment des séances d'allaitement, un par un, dans l'ambiance feutrée de la nuit, que tous les deux réveillés, c'était chouette.
J'ai alterné entre la joie d'être rentrée et l'angoisse d'être toute seule à m'occuper de deux bébés, parce que mon mari a repris le... En fait, il est retourné tout de suite au travail. Et puis, au bout d'une semaine, il a compris qu'il était temps qu'il prenne son congé paternité. Voilà.
Donc, je crois que Raphaël, vous avez dit qu'il faudrait qu'on soit deux sur les premiers mois. Hein,
sur les premiers mois, oui. Puis, c'était une des conditions pour qu'on puisse faire cette aventure, quoi. Donc au final, oui, je me suis arrêté presque un an de travailler, bon an mal an, et que du coup, c'est ce qui nous a permis de passer le cap, d'être à deux à la maison. De toute façon, c'est jusqu'aux 4-5 mois des filles, des petites, des jumelles, du coup, il fallait qu'on soit deux pour s'occuper des deux, en fait. On ne pouvait pas être tout seul pour s'occuper des deux. Donc forcément, bah, y a quelque chose, c'est forcément ça qui nous a permis de... d'y aller, quoi.
Ouais, d'accord. Et Claudine, dans les échanges qu'on a eu au préalable de l'émission, vous m'avez vraiment rappelé ça, ce qui est vrai quand on a un enfant, mais encore plus quand on en a deux, que le couple est mis à l'épreuve avec l'arrivée de deux bébés. Comment on s'arme face à la fatigue, face aux tensions, face aux conflits?
Oui, là, c'est le baptême du feu. C'est où ça passe, où ça casse. Je le dis de façon un peu expéditive, mais on voit si le couple est solide ou pas, si la solidarité est présente et s'il y a un souci de l'autre aussi dans le couple. Ça peut énormément renforcer le couple, hein, ça peut développer une grande complicité de vie. Le deuxième parent, il s'investit très tôt, il est un petit peu obligé parce que c'est une grossesse à haut risque. Donc du coup, il est obligé d'être là. Il faut que la maman ralentisse beaucoup le rythme, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle évite les charges lourdes. Donc le partenaire est très vite mis à contribution. Moi, je pense que c'est important de communiquer en règle générale sur comment on va s'organiser, qu'il n'y ait pas de jugement de l'attitude de l'autre. Parce que quand on est fatigué, ça peut clasher très vite et ça peut vite partir en live. Et il faut arriver à gérer la fatigue. C'est-à-dire que la fatigue, on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages, la nuit, c'est difficile, on ne dort pas beaucoup. Donc nous, on avait mis en place des quarts de nuit, carrément comme sur un bateau. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui démarrait la nuit et puis l'autre qui terminait la nuit. Et mon mari avait pris aussi un congé à temps partiel pour pouvoir assurer à la maison. Voilà. Donc le couple, c'est très important. Les enfants sont importants dans l'histoire, mais le couple est très important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bichonner parce que c'est ça qui va aider à continuer dans le temps.
Ouais, d'accord. Et Raphaël, vous, votre organisation au quotidien, justement, à deux, ça se déclinait comment ?
Ça se déclinait qu'on faisait les choses au fur et à mesure qu'il fallait les faire, quoi. Moi, je crois que je rejoins cette idée qu'on a fait équipe, en fait. Voilà. Et alors, oui, la fatigue aidant, on s'est aussi engueulé, on s'est aussi bien engueulé. Mais du coup, après, on a aussi un fonctionnement qui fait qu'on a réussi on essaye de pas faire de commentaires sur comment fait l'autre, en fait. Et que du coup, ce qu'on appelle, nous, le traité de non-ingérence, c'est que tu changes une couche, tu sais faire, tu fais un repas, tu sais faire. Enfin, tu te débrouilles du moment que c'est fait, on s'en fout. Et c'est ce qui a permis aussi de passer le cap et de pas trop s'engueuler, quoi, surtout, le moins possible.
Du coup, moins de. Par rapport à votre premier enfant, ou pas, pareil, hein, c'est des épreuves, c'est des petits. Mais du coup, moins d'engueulades, du coup, avec la gestion différente.
Oui, moins d'engueulades et puis surtout, on connaissait le côté bébé, donc on se posait beaucoup moins de questions. Pour la première, on se parlait qu'en questions. À un moment donné, c'est tu crois qu'elle a froid, tu crois qu'elle a faim, et à un moment donné, ça devenait chèvre. Et donc là, du coup, on se posait beaucoup moins de questions. Tu crois qu'elle a faim, donne-lui un bib. Tu crois qu'elle a chaud, mets-lui un pull et puis c'est tout. Enfin, puis c'est tout. Et puis après, ça passe beaucoup plus vite et les choses s'expédient en fait beaucoup plus vite, quoi.
Ok.
Donc, le soutien mutuel entre parents, indispensable quand il y a deux parents, quand c'est possible, quand il n'y a pas trop de conflits. C'est également possible de recevoir de l'aide de la famille ou des professionnels. On le verra, il y a beaucoup de parents qui parlent des TISF, donc les travailleuses en intervention sociale et familiale, qui dépendent d'associations de soutien aux familles et qu'on peut tout à fait solliciter en tant que parent de jumeaux et dont la CAF offre une aide financière pour qu'elles viennent un certain nombre d'heures par semaine qui est à calibrer, qui est à géométrie variable en fonction des besoins des parents. On va écouter Gwen au sujet des relais.
Moi, mes parents vivent au loin, mais ils sont venus donc pour les, je crois, 15 derniers jours avant la naissance et les 3 semaines après, mais ils n'étaient pas chez nous, ils avaient loué quelque chose pour être juste à côté, mais pas être quand même dans l'espace familial. Et franchement, je me demande, les 3 premières semaines comment on aurait fait quoi s'ils n'avaient pas été là. Ensuite, c'est tout bête, mais j'ai une cousine qui est venue quelques jours. Et puis à chaque vacances, on refilait chez mes parents parce qu'en fait, on avait juste besoin de bah, de dormir en pleine journée, quoi. On n'en pouvait plus. Se faire aider, ne serait-ce que, enfin, quoi, des copains qui arrivent, pas pour, forcément pour rester, mais juste pour déposer un repas. Il y a des fois, on en aurait rêvé parce que on était dans le jus tout le temps, tout le temps. On avait aussi quatre heures par semaine. Une dame qui venait, alors, non, elle était super, Eva, et une fois par semaine, elle était là, elle m'aidait, faisait faire le ménage, leur passage, aller mener Laïsa à l'école. Et elles sont même, je veux dire, habilitées à faire les courses s'il y a besoin. Nous, il n'y en avait pas, mais c'est vraiment une aide précieuse, vraiment à géométrie variable selon ce dont on a besoin. Elle était zen, elle était super. Donc, au-delà de l'aide matérielle, moi, elle me faisait beaucoup de bien psychologiquement aussi.
Donc voilà, l'intérêt d'accueillir une TISF et de prendre une TISF quand il y en a besoin, surtout qu'il y a des aides financières de la CAF, je le rappelle. Vous, Raphaël, comment ça s'organise votre semaine? Parce que je sais que vous avez un travail où vous n'êtes pas là deux soirs par semaine.
En effet, bah, du coup, on sait, de toute façon, voilà, on connaît les limites, on ne peut pas s'occuper tout seul des trois filles. Donc moi, quand je suis au travail, donc on fait venir une jeune fille qui passe par l'association O2, qui vient aider ma conjointe quand je suis pas là pour pouvoir se faire la soirée. Donc c'est vraiment aller chercher la grande à l'école, la ramener, passer le repas, faire les douches, les bains, le coucher, et puis après, une fois que ça s'est fait, c'est bon, quoi. Mais voilà, c'est par ça qu'on passe, nous, parce que sinon c'est pas possible.
Ouais, j'imagine que c'est un vrai confort et pour vos enfants et pour votre compagne, et là dans la relation, dans la fluidité aussi de la soirée, quoi.
Bah ça permet de passer des soirées sereines, sinon voilà. sinon c'est plus dur, quoi. C'est vraiment beaucoup plus dur et voilà, c'est plus serein.
Ouais. Ouais. Et donc on peut préciser qu'il y a le choix du complément de mode de garde qui est également une aide de la CAF pour soutenir les parents qui font ce choix.
C'est ça. Nous au final, voilà, cette aide, elle nous revient à... Enfin, cette personne, elle nous revient à une cinquantaine d'euros par mois, un peu plus. Mm-hmm. Donc pour 16 heures par mois, 16 à 20 heures par mois, c'est tout à fait honnête pour l'aide que ça nous apporte en tout cas, quoi.
Mm-hmm. D'accord. Et c'est déductible des impôts.
Et c'est déductible des impôts, évidemment.
Très bien.
Donc on va écouter Annabelle maintenant. Elle, en plus du soutien de la TISF, du soutien et du soutien familial, elle a eu besoin de soutien de professionnels pour passer le cap au mieux et appréhender sa parentalité de la meilleure façon possible. Elle s'est fait aider par une psychologue, elle nous raconte.
Les erreurs que j'ai commises au départ, c'est d'une part d'avoir pensé que je courais un sprint, alors que clairement c'était un marathon. Non, les enfants ne font pas leur nuit au bout de 3 mois et ensuite ça va. Moi j'ai dormi des nuits entières, 2 ans et demi après avoir accouché. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de mettre la barre trop haut. Moi je pensais que je serais une maman cool, je sortirais avec mes bébés en écharpe. Bon, j'ai jamais su faire un nœud au final. Et j'ai réussi à m'extraire seule avec eux dans la poussette double au bout de 7 semaines, je crois. J'ai mis du temps à renoncer à être la mère que j'avais rêvé d'être. J'ai eu besoin d'une psychologue pour y renoncer et me contenter de ce que j'étais. Comme dit le psychologue Winnicott, une mère suffisamment bonne, ce qui est déjà pas mal. J'ai mis plusieurs mois à la naissance à me défaire de cette culpabilité de ne pas être parfaite. Mais bon, c'est un chemin difficile, hein. Au bout de 5 ans, je dois encore parfois m'en convaincre. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On en a besoin. Il faut demander de l'aide à la famille, aux amis, aux psychologues. Je crois aussi qu'il est nécessaire de ne pas rester seul, de fréquenter la PMI, les lieux d'accueil parents-enfants, l'association Jumeaux et Plus pour échanger, pour soutenir. Moi, les premiers mois, ça m'a sauvé de faire partie de Jumeaux et Plus. Personnellement, moi, j'ai fait le choix de me former, de me faire accompagner par des coachs en parentalité, de manière individuelle ou collective. Moi, ça m'aide à cheminer. Je ne crois pas du tout à l'instinct, je ne crois pas au bon sens qui nous ferait spontanément faire les meilleurs choix, avoir les meilleures attitudes. Pour moi, être parent, ça s'apprend. Alors, c'est pas confortable, hein, mais bon, je crois pas qu'être parent, c'est confortable. Mais en tout cas, c'est une richesse fabuleuse et un super challenge.
Bon, ça, c'est un témoignage super émouvant d'Annabelle qui dépasse les questions la question des jumeaux, mais je trouvais que c'était important de faire passer. Elle fait passer plein de choses. Elle parle de la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent à pas être parfait, à pas être aussi bien que ce qu'on avait imaginé. Et je trouve que c'est important de dire que ça existe et que c'est pas grave en fait, mais que ça fait partie aussi de l'histoire de beaucoup de parents de se retrouver dans cette situation-là. On va passer maintenant, donc on s'est dit que s'entourer c'était important. Je sais qu'en discutant avec Claudine, elle me disait aussi s'entourer c'est bien, mais il faut aussi pouvoir poser ses limites. Et je crois que Raphaël, vous avez aussi quelque chose à dire à ce sujet-là. Je vous laisse commencer, Claudine.
Oui, en fait, moi j'ai tendance à dire que les jumeaux c'est comme un pot de miel dans une tribu d'ours. Tout le monde a envie de sauter dessus. Et donc dès la naissance, on est très sollicité par les amis, par la famille. On veut venir voir les jumeaux. Puis ça débarque dans la chambre de la maternité sans crier gare. Donc c'est là où il faut vraiment arriver à mettre les limites. Alors les limites par rapport au temps, c'est-à-dire que, ok, on veut bien des visites, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On a une organisation familiale qui doit être assez stricte pour que les enfants aient un rythme assez strict pour que tout le monde puisse s'en sortir. Il ne faut pas que les gens s'éternisent à la maison. Quand ils viennent, ils doivent avertir et puis, si possible, être un peu utile. C'est-à-dire que s'ils boivent le thé pendant que nous, on lave la vaisselle, ça ne le fait pas, quoi. Donc, attention à l'invasion de la famille et des amis n'importe quand. Enfin, moi, c'est un truc dont j'ai un peu souffert quand mes enfants étaient petits. Je n'ai pas su gérer vraiment à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, je me suis un petit peu renfermée parce que j'y arrivais plus, quoi. Ça débordait. Donc, c'est bien d'avoir de l'aide, mais c'est important de l'organiser, cette aide. Voilà.
D'accord. Raphaël, pour compléter ?
Oui, bah, c'est vrai que nous, on a des fois eu l'impression de ne pas très bien réussir à faire comprendre notre besoin d'avoir un cadre de vie hyper strict et régulier. C'est-à-dire les repas à 18h30, voilà, que c'était comme ça, c'était immuable. Et que quand on dit à table, il faut que tout le monde soit à table dans les 10 secondes, parce que c'est le moment, quoi. Et au début, ça a été un peu compliqué, et puis maintenant, bah, c'est rentré. Enfin, voilà, les personnes qui nous aident l'ont comprise. Après, c'est aussi par l'expérience, effectivement, que notamment les grands-parents ont compris qu'il y avait besoin de ça, parce que sinon, on se laisse déborder en fait par le quotidien, et puis après, bah, c'est les parents qui sont épuisés, et voilà, et qu'on a besoin de garder cette maîtrise. Vraiment, c'est important, la maîtrise du quotidien, du rythme des enfants, de notre rythme à nous. Et voilà, ça, c'est important parce que c'est une question de fatigue, en fait, tout simplement.
Voilà. Et de survie, du coup. Et quand vous dites que l'expérience, c'est quand les grands-parents commencent à garder eux-mêmes seuls les enfants qui peuvent se rendre compte de l'importance de cette maîtrise et de ce rythme-là.
Bah, il me semble que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont un peu mieux appréhendé ce qu'on pouvait vivre justement dans le quotidien quand ils ne sont pas là. Et du coup, voilà, c'est ce qui, je pense, ça les a aidés à comprendre ce qu'on vivait, quoi.
D'accord. Donc dans l'organisation du quotidien, il y a aussi l'organisation avec professionnel, avec son employeur. Et il y a certains couples qui font le choix de prendre un congé parental, l'un et l'autre, ou l'un à la suite de l'autre. On va entendre une maman, enfin d'abord deux papas qui ont fait le choix d'être auprès de leurs enfants durant les premiers mois, leurs premières années, ou même des années. On va commencer par écouter Patrick, c'est un témoignage qui est un petit peu long, mais comme le fil rouge de Parents Live cette année, c'est la question de la place des pères, ça me paraissait important de mettre en avant une expérience de congé parental de papa. Patrick, il est cadre, je vous le précise parce que ça va être important dans son témoignage. Il est resté auprès de ses enfants un an, de leurs 6 mois à leurs 18 mois.
Ça s'est imposé comme une sorte d'évidence, en fait, pour deux raisons. C'est qu'à l'époque, quand nos enfants sont nés, nous habitions à Paris. C'est un endroit où les places en crèche, en garderie ou auprès des assistantes maternelles sont chères. Et d'autre part, nous n'avions pas, on n'avait pas vraiment l'envie de confier nos enfants à quelqu'un d'autre, en fait. On avait envie de s'occuper d'eux. J'ai eu envie de prendre un congé parental. Au début de la vie des enfants, on compte en mois et ce sont des mois qui passent assez vite. Donc j'avais vraiment envie d'être là. Et puis d'un point de vue purement financier, bon, c'est un investissement forcément. Il se trouve qu'à l'époque, mon épouse avait un salaire qui était meilleur que le mien. Donc il y avait une certaine logique à ce que ce soit moi qui prenne le congé parental. J'aurais été bien embêté si ça avait été l'inverse. Si moi j'avais gagné plus, je crois que j'aurais quand même eu envie, très très envie de prendre ce congé parental. Au niveau de l'entourage familial ou amical, les réactions étaient toutes positives. Au niveau du travail, au niveau de mon employeur, il n'y a pas eu de réaction négative non plus. Paradoxalement, c'était d'autres papas. Et la première question qu'ils me posaient, c'était « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Alors, ça n'a jamais été formulé précisément. Mais moi, ce que j'entendais derrière cette question, c'était « Quel est donc ce travail qui te permet de prendre un congé parental? J'avais l'impression que de leur point de vue, il y avait certains travails qui permettaient de prendre un congé parental et d'autres où c'était même pas imaginable. Grâce au groupe Facebook de l'association, grâce à d'autres groupes Facebook sur le thème de la parentalité, parentalité positive, ce genre de choses, j'étais en contact avec beaucoup de gens. Donc, physiquement, je voyais essentiellement des professionnels de la petite enfance, mais j'étais en relation avec pas mal de gens avec qui je discutais. Donc, ça m'a permis de pas rester isolé tout seul dans mon coin. Ah bah, c'est simple, moi j'étais le roi du monde à l'époque. J'étais toute la journée avec mes enfants, j'avais pas vraiment d'horaire si ce n'est les quelques impératifs liés au repas et aux siestes. J'avais ma poussette double, j'avais mes enfants dedans, j'avais customisé la poussette au printemps, j'avais acheté des petits moulins pour qu'ils puissent tourner dès qu'il y avait un petit peu de vent. Un petit peu partout il y avait des ficelles qui pendaient auxquelles j'attachais des ballons de baudru, j'attachais des petits jouets pour occuper les enfants. Pendant les fêtes de Noël, j'avais acheté une petite guirlande électrique, j'avais enturbanné la poussette et donc on clignotait partout dans le quartier. Donc j'ai absolument aucun regret de cette période, c'était vraiment génial. Si on veut vraiment être apaisé, déjà, il faut vraiment se déculpabiliser et puis essayer de sortir du schéma traditionnel, travail, carrière, si je suis pas là pendant un an, le monde va s'écrouler. Donc déjà, il faut partir dans le bon état d'esprit, il faut pas y aller contraint et forcé. Il faut bien évidemment pouvoir se le permettre financièrement, on perçoit des allocations à ce moment-là, mais ça n'égale pas un salaire. Et une fois tout cela dit, ce qui compte, c'est l'anticipation, l'organisation. Il ne faut pas oublier qu'on a beau être en congé parental, on n'est pas père ou mère célibataire pour autant. Donc le conjoint, la conjointe sont présents. Voilà, faut se répartir les tâches. Moi, j'étais seul avec les enfants pendant la journée, mais j'étais pas tout seul à les élever. J'étais pas tout seul le soir, j'étais pas tout seul la nuit. Il faut pas hésiter à prendre les transports en commun aussi pour éventuellement sortir de son quartier. Faut pas hésiter à faire les choses, mais il faut quand même bien se préparer avant pour savoir ce qu'on peut faire. Il y a double de travail et double de dépenses parce qu'on a deux enfants, mais il y a aussi la problématique spécifique. On a deux enfants en même temps, du même âge, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc c'est pas pour faire le vétéran, mais c'est pas juste deux fois plus de travail. C'est un petit peu plus que deux fois plus de travail.
C'était pas ma guerre.
Raphaël, est-ce que vous pouvez compléter sur ce choix du congé parental et comment vous êtes organisé?
Ce choix de congé parental, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour être deux avec les enfants. Et on s'est organisé, on a pris leur enseignement. Ça a été un grand moment avant la naissance de se dire, comment on va faire?
Au niveau financier.
Donc au final, on a appelé notre banquier, donc on a pu faire suspendre le prêt pendant toute la durée du congé parental. J'ai pris un congé parental majoré, c'est une disposition qui existe à partir de 3 enfants, je crois, qui permet, donc il est plus court, c'est 8 mois dans la première année, mais il est rémunéré à 640 € au lieu de 340. Et du coup, bon an mal an, entre les trajets que je faisais plus pour aller au boulot et un certain nombre de choses, financièrement, et puis les aides, effectivement, des allocations familiales et tout, on s'y retrouvait, et moi, on n'a pas perdu d'argent du tout. On a juste repoussé notre échéance, notre prêt de quelques mois, quoi, c'est tout. Donc financièrement, on s'y est retrouvé comme ça, quoi.
Là, on ne l'entend pas, mais Patrick, il dit aussi, et je crois que c'était le cas pour vous, ces enfants ont été accueillis aussi deux matinées par semaine en crèche. Je crois que vos petites filles aussi, elles ont été accueillies en crèche à un moment
grande,
donné.
La grande, on l'a laissée à la crèche. Après, en septembre, il y a eu la rentrée à l'école. Et les filles sont rentrées, les petites sont rentrées à la crèche en septembre en même temps que l'école. Donc moi, du coup, à ce moment-là, j'étais encore à la maison. Donc ma conjointe a repris le travail, donc les petites ont la crèche, l'école. Donc ça aussi, d'être à la maison, ça a permis de temporiser ça en disant, moi, je vais gérer le quotidien. Donc les repas seront prêts le soir. Je pourrai aussi aller chercher les enfants s'il y a des maladies. Voilà, ça nous a permis ces quelques mois, 3-4 mois où que j'étais encore à la maison, de la rentrée. Ça a permis de temporiser ça et de rentrer tranquille, chacun tranquille à reprendre ses activités. Parce que notamment ma conjointe qui s'était arrêtée presque un an et demi, en fait, où... assez longtemps depuis la grossesse, un an avec la grossesse, et c'est arrêté assez longtemps, du coup il fallait aussi qu'elle reprenne le boulot, tranquille, donc ça a permis de temporiser.
D'accord, donc prendre le temps, le temps à deux et à faire en sorte que ce soit confortable pour tout le monde. Vous, Sarah, c'était pas un congé parental, mais vous avez aussi fait le choix de vous arrêter de travailler.
Oui, alors moi, quand j'ai su que j'attendais des jumeaux, je postulais pour un poste à Strasbourg, donc... J'ai vite arrêté de postuler parce que je me suis dit, de toute façon, on ne me prendra pas. Et puis, partir à Strasbourg, c'était compliqué. Enfin, bref. Et donc j'ai arrêté de chercher du travail en me disant, je vais déjà avoir suffisamment de travail en ayant deux enfants à la maison, avec un mari qui ne rentre toujours pas d'ailleurs avant 19h le soir. Donc, ça fait des grosses journées. Et donc, moi, j'ai profité, j'ai assumé d'être maman au foyer et pas en congé parental pour m'occuper des enfants. Alors, je ne suis pas restée inactive, d'abord parce que les enfants... moi, je sortais tous les jours dès mon retour à la maternité. Ils sont allés à la halte-garderie. Dès que j'ai eu le papier disant « vous avez le droit à des heures », je les ai mis deux matinées par semaine pour pouvoir faire, moi, autre chose. Et puis, je suis vite allée voir... j'étais adhérente à l'association Jumeaux et Plus à l'époque en tant que future maman. Et puis, vers les 2 ans des enfants, je suis allée voir Claudine. Et puis, j'ai dit « moi, j'aimerais bien rendre l'appareil un peu à l'assaut ». Donc, je suis rentrée dans l'association. Et j'ai fait plein de choses dans les centres sociaux de ma ville, en assumant le fait de ne pas travailler, de ne pas recommencer à travailler, même une fois que mes enfants sont rentrés à l'école.
Oui, pour vous, l'idée, c'était de pouvoir être présente pour eux et de ne pas d'ajouter des contraintes supplémentaires.
C'est ça. Pour moi, dans mon schéma, alors ça vient peut-être du fait que ma maman s'est arrêtée de travailler quand je suis née et qu'elle n'a jamais repris, j'en sais rien. Mais et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir avoir, pour les enfants, d'avoir... Enfin, c'est un confort, c'est sûr. Ils ne s'en rendent pas compte, même encore maintenant, peut-être. Mais d'avoir une maman présente à la sortie de l'école, qui ne soit pas obligée de manger à la cantine, même si je les mettais quand même une journée, pareil, une fois par semaine à la cantine pour au cas où, qu'ils aient une vie comme les autres enfants, entre guillemets, qui ont des parents qui travaillent, mais qu'ils ne soient pas exclus. Puis ça permet de faire les activités extrascolaires. Et puis après, j'ai eu l'orthophonie, et puis j'ai eu la psychologue, et puis j'ai eu plein de choses. Et je ne sais pas comment j'aurais pu faire si j'avais dû travailler.
Ouais, on regrette du coup que ce travail domestique soit pas un travail rémunéré, parce que c'est clairement un travail. Donc petit appel au gouvernement, je vais passer un petit message dans le cadre. Bon, on voit bien à travers tous ces témoignages l'intérêt de prendre au sérieux la charge de travail, la fatigue et l'organisation qu'implique l'arrivée simultanée de 2 bébés. Tous ces messages qu'on passe pendant l'émission et que relaie activement l'association Jumeaux et Plus, ça vise à prévenir le burn-out parental et les conflits conjugaux. N'hésitez pas donc à pousser, comme elle vous le disait Annabelle, les portes des lieux d'accueil enfants-parents, de la protection maternelle infantile, les ludothèques, le café papote des Jumeaux et Plus, les cafés des parents qui existent en ville, à consulter un psychologue si vous sentez vous craquer, à rencontrer les familles de Jumeaux et Plus et à entretenir le lien au téléphone ou en visio avec ceux qui vous sont proches quand les sorties elles sont pas envisageables.
Yes, merci Flo. On va faire une petite pause, en musique. On reviendra après pour parler un peu avoir des jumeaux. Qu'est-ce que ça change en tant que vie sociale et familiale? Qu'est-ce qui change tout ça? Ce sera le troisième volet de notre sujet. En attendant, Michael Jackson tranquillement sur News, les copains. Montez le son et puis on se retrouve juste après.
Magic music grooves me, that dirty rhythm fools me, the devil's got them to me. You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine.
News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk, monte le son.
Eh ouais, ça se marre sur News FM. C'était Michael Jackson à l'instant, Blame It on the Boogie. Et nous, on est de retour dans cette émission, part en live numéro 11, 1 plus 1 égale 4 en famille avec des jumeaux Flo. Et là, c'est la partie vie sociale et familiale qu'on aborde avec nos invités que sont Claudine, Sarah et Raphaël.
On va commencer par l'histoire des sorties. Moi, je me rendais pas compte que ça pouvait être de sortir avec deux bébés, deux nourrissons, et puis deux enfants en bas âge. Les sorties, les déplacements, ça devient rapidement un parcours du combattant pour sortir avec les deux. On va écouter Laura à ce sujet.
Du coup, les sorties, voilà, ça demandait un petit peu d'organisation. Et oui, je me suis rendu compte que c'était pas toujours simple. Même pour aller à des rendez-vous médicaux, globalement, tous les... que ce soit pédiatre, médecin, etc., ils peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc, une poussette est censée y arriver. Mais une grosse poussette double ne rentre pas toujours dans un ascenseur. Parfois, il y a des marches. Et puis, quand on n'a que deux bras, et ben, prendre deux bébés, et voilà, il faut prévoir le porte-bébé, etc. Donc, à chaque fois, il faut appeler les personnes avant pour dire « J'arrive en bas de chez vous, venez m'aider ». Voilà, sortir quand il commençait à marcher, je me disais, mais en fait, si les toilettes ne sont pas assez grandes pour que je puisse rentrer avec la poussette, je peux pas sortir trop longtemps, parce que si moi j'ai besoin d'y aller, je peux pas laisser mes enfants. Si un des deux a besoin d'aller aux toilettes et que je peux pas faire rentrer le deuxième avec moi dans les toilettes, c'est pareil. Le bus, bah, quand c'est les heures de pointe, effectivement, vaut mieux éviter. Parce qu'avec la poussette double, on est mal regardé. Les restaurants, bah, ça veut dire qu'il faut souvent prendre le temps d'appeler le resto avant, pour savoir s'ils ont de la place pour une poussette double ou s'ils ont des chaises hautes, est-ce qu'ils en ont bien deux.
Voilà, là.
D'accord, ouais, donc les sorties, pas simple quand ils sont tout petits, puis quand ils commencent à marcher, l'inquiétude aussi quand ils sont au parc, si on a un qui part dans une direction, puis l'autre qui part dans l'autre, enfin, comment on fait, donc pouvoir assurer leur sécurité aussi. Et en plus de perdre 3 litres de flotte à transpirer, à se péter le dos pour trimballer les cosy, les parents de jumeaux, ils m'en ont tous parlé, ils se sont souvent pris à partie dans la rue par des inconnus, et qui leur font ces fameuses râles, ces réflexions à la con. Ça peut paraître anecdotique, mais ils m'en ont tous parlé. Claudine va nous offrir un petit florilège de ces réflexions, au mieux indiscrètes, au pire déplacées, qui, selon l'état du moment du parent, peuvent amuser, vexer ou rendre franchement agressif.
Oui, alors, et puis en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent les mêmes. Hein. Je ne sais pas s'il doit y avoir un inconscient collectif quelque part qui fait bouger ce genre de phrases, mais les bons courages, d'accord, super. La classique, il y a des jumeaux dans votre famille, c'est naturel ou pas? Parce qu'on a déjà posé une question comme ça à quelqu'un qui a eu un seul enfant en même temps. Le comment avez-vous fait? Ah, attendez, je vais vous expliquer un petit peu la recette maison, puis vous allez comprendre. Le sempiternel, déjà un, mais deux. Hein, oui, bah oui, on fait ce qu'on peut, hein, nous aussi, on en voulait qu'un au départ, et puis voilà. Jusqu'à des croustillantes du genre « il est bon le mari, mais attention, il ne faut pas qu'il recommence hein. ». D'accord. Ça fait un petit peu sortir la virilité de monsieur qui, des fois, s'en trouve bien. Bien. ou alors, quand on a garçon et fille, vous avez le choix du roi. C'est bien, vous avez le choix du roi. Puis maintenant que vous avez fait le garçon et la fille, bah, ce n'est pas la peine de recommencer. Voilà, donc je pourrais vous en citer des pleins hein, qui sont mignons. C'est des jumeaux, vous avez de la chance, oui. Et puis une partie de la population, c'est « Oh, des jumeaux, mon rêve, j'aurais adoré avoir des jumeaux. » Et puis l'autre partie de la population, ça va être « Oh là là, des jumeaux, ma hantise. » On a les deux versions en règle ouais. générale, il n'y a pas beaucoup de demi-mesures. Oui.
Donc, Laura, elle me disait aussi que des fois, elle n'était pas du tout en mesure d'accepter ça. Donc, elle marchait, elle regardait ouais. le trottoir.
Ça m'est
et,
arrivé.
Voilà. Et des fois, des gens lui barraient la route oui. pour pouvoir lui parler quoi, quand elle était avec sa poussette double. Donc, on a Patrick qui, carrément. Lui, paradait. Et puis, qui était content, qui avait l'air super content d'afficher ça. Il a pas dit qu'il était pris à partie. Mais en tout cas, Laura, elle me dit, voilà, je regardais le trottoir. Donc, l'arrivée des enfants, ça induit souvent une rupture avec notre vie d'avant. Ah, sniff, la regretter. Quand on n'avait que nous à penser au quotidien. L'isolement, le décalage avec les autres, c'est souvent évoqué par les jeunes parents. C'est aussi vrai avec les... quand on a des jumelles et des jumeaux. D'autant plus qu'il y a deux fois plus de charges de travail, donc deux fois moins d'occasion d'avoir du temps à soi ou en couple. Gwen, sur ça, elle n'a rien voulu lâcher.
Très vite, on a essayé que la présence des jumeaux ne soit pas un frein aux activités qu'on avait commencé à avoir avec elle avant. On a très vite emmené tout le monde, c'est vrai, à la piscine ou au ski, tout ça. Donc à chaque fois, c'est vrai que c'était une organisation, même faire de la rando en montagne avec des jumeaux. Et ben, on était ultra chargés. Et à chaque fois, on a jamais renoncé, même si c'était vraiment très physiquement, même en termes d'organisation, c'était un peu la guerre, quoi. Mais quelque part, c'était et pour elle, pour qu'elle continue à avoir ce dynamisme, toutes ces activités qu'on avait mises en place avec elle, et aussi pour nous, quoi. On voulait vraiment pas se sentir enfermés et limités. Et donc, je pense que le jeu en a valu la chandelle, même si des fois, on se disait, mais dans quoi on s'est fourré?
Donc, Gwen et Céline, elles ont mis l'énergie pour continuer à faire les activités qu'elles avaient fait avec leur grande. Quand elle dit elle parle de Laïsa, leur aînée. Claudine, ce sentiment d'isolement, d'enfermement, vous l'avez vécu aussi?
Oui, moi, je l'ai vécu parce que j'avais une vie sociale très développée avant la naissance des enfants. Et puis là, je me suis retrouvée quasiment du jour au lendemain à la maison, coincée avec une organisation qui n'était pas toujours facile. Sortir les enfants, c'était compliqué. Avec un ascenseur qui ne pouvait pas accueillir une poussette. Donc, c'était beaucoup de manutention. Et il y avait des jours où je ne sortais pas, en fait, hein, clairement. C'était vraiment trop compliqué. Et en particulier l'hiver, où il fait froid, on n'a pas beaucoup. La fenêtre de sortie n'est pas très grande, donc on reste à la maison. Moi, ce qui m'a un petit peu sauvée, c'est la présence des travailleuses familiales à la maison. Alors, à l'époque, on les appelait travailleuses familiales. Maintenant, c'est les TISF. Dès qu'elles débarquaient, 5 minutes de recoupement, elles me mettaient à la porte. Ça, c'était un vrai truc vraiment salvateur. Et je me barrais au marché Saint-Bruno parce que j'avais envie de voir du monde. J'avais envie d'entendre parler des gens. J'avais envie de faire un petit peu de shopping, hein. Et j'avais envie de me mettre dans une foule qui brassait, parce que j'étais tellement seule à la maison et tellement presque cloîtrée que c'était hyper important pour moi. Et ensuite, il y a bien sûr eu l'association Jumeaux et Plus qui a été hyper salvateur pour moi. C'est de pouvoir discuter jumeaux et problématiques de parents de jumeaux avec des gens qui vivaient ça. Et donc ça a vraiment été pour moi très, très salvateur. Discuter les parents de multiples, hein, quand on dit jumeaux, on inclut aussi les triplés et les quadruplés. C'est vraiment très important de pouvoir discuter entre nous parce que on retrouve vraiment nos vécus, on se raconte nos vécus et c'est pour ça que l'association, entre autres, est extrêmement importante pour ça.
D'accord. Raphaël, vous avez été philosophe par rapport à cette question de mettre un peu entre parenthèses, un peu en suspens votre vie, on va dire, sur les premières années des enfants.
Oui, nous on s'est l'expérience de la grande nous avait déjà fait, on avait déjà essayé d'être au taquet, de faire des trucs continués, ça nous avait beaucoup fatigué. Donc là, pour l'arrivée des jumelles, on a vraiment, on s'est dit tant pis, on se met en stand-by. On fait les choses pour les enfants et ça gère. Enfin, du coup, on s'y attend, on le sait. Ça génère moins de frustration. Je peux pas partir à la journée faire du sport. Je peux pas faire. Bah, tant pis, c'est pas grave. Ça reprendra dans 2-3 ans. Et puis voilà quoi. Donc c'est moins dur à vivre et à accepter en ayant renoncé en fait.
D'accord. Donc maintenant, on va passer à une partie plus autour de l'éducation de ces deux petites personnes qui arrivent. Il y a souvent une question qui revient chez les enfants des jumeaux. Est-ce qu'on synchronise les enfants ou est-ce qu'on on les nourrit et on les fait dormir quand ils en expriment le besoin? On va entendre Annabelle à ce sujet, qui a le choix de se mettre au service du rythme des bébés pendant leur petite enfance.
Alors nous avons fait le choix de respecter le rythme de nos enfants. Déjà, comme l'expression l'indique, pour respecter leur rythme. Personnellement, si on me réveillait la nuit pour me faire manger sous prétexte que mon mari a faim, je serais passablement contrariée. Les premiers temps, les interactions avec les nourrissons, c'est essentiellement constitué de soins. Donc on avait la sensation que caler les enfants sur le même horaire, ça revenait à minuter les choses, à dire « Allez bon, ça fait 30 minutes, faut passer au suivant ». Donc on préférait passer du temps avec celui qui était réveillé, profiter de lui. Notre façon de faire est peut-être plus fatigante. Bon, je connais pas de parents de jeunes jumeaux qui sont pas fatigués, hein, qui calent ou non. Moi, j'en pouvais plus de me faire réveiller, à tel point que, au bout d'un moment, je préférais ne pas me rendormir entre le biberon de l'un et de l'autre pour ne pas me faire réveiller. On s'est dit, on va se laisser porter par leur rythme, se mettre à leur service quelques mois, et on trouvait qu'ils méritaient qu'on leur donne ça, et que, ben, voilà, quelques mois, c'était quelques mois dans notre vie, et qu'on finirait bien par s'en remettre.
On dit Annabelle sur ce choix-là d'être au rythme des enfants. Raphaël, vous, pour vous, c'était une question de survie et vous avez fait un autre choix.
Nous, par exemple, effectivement, la nuit, on les calait. On les réveillait, tout ça, parce qu'effectivement, ça nous paraissait plus jouable pour pas être trop fatigué. Voilà, je pense que les deux solutions sont bonnes à partir du moment où ça convient, et puis ça convient aux enfants, puis finalement, ils s'y adaptent aussi. Enfin, il y a tout ce jeu, c'était leur tour entre ce qui convient aux enfants, puis ce dont ils ont besoin, puis ce dont à quoi ils s'adaptent, quoi. Et donc, nous, elles se sont bien adaptées avec ça, et du coup, voilà, ça a fonctionné comme ça. Donc, on les a calées, on a essayé de les caler autant que possible. C'était pas toujours possible, mais autant que possible, ouais.
La question aussi, donc, on parle de jumeaux, mais il y a aussi des jumeaux, ils s'inscrivent ça, dans certaines familles, dans des fratries. La question de la place de l'aîné, quand il y a un enfant, puis après, il y a les jumeaux qui arrivent derrière. On va entendre Gwen à ce sujet-là, comment elle a vécu ce côté d'avoir deux enfants après avoir eu une plus grande.
Moi, je répétais souvent, mais voilà, t'imagines ce qu'on est en train de faire vivre à notre fille. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir deux jumeaux, ça allait être dur pour nous. Mais du coup, c'était elle qui allait en payer le prix fort aussi, comme si sa vie et toute l'autonomie qu'elle était en train de prendre à un peu plus de 3 ans allait s'arrêter. Et donc, du coup, on a vraiment été toutes les deux super vigilantes, même pendant l'été de leur naissance. Je me souviens, on se débrouillait pareil pour quitte à tirer mon lait, mais pour que je puisse, par exemple, l'emmener au cinéma ou l'emmener à la piscine. C'était pas, du coup, c'est Céline qui s'occupe de la grande, moi des jumeaux, parce qu'on voulait pas que, entre guillemets, elle assimile l'arrivée des jumeaux à ce que sa mamoune, puisqu'elle m'appelle comme ça, sa mamoune soit plus disponible du tout pour elle, donc... Ça, on s'est vraiment toujours réparti notre disponibilité auprès de notre fille.
Donc Raphaël, vous êtes dans cette même configuration. Vous avez, comment vous avez fait, vous, justement, à la place de la grande? C'était comment pour vous, à votre famille?
La place de la grande, ça a été dur, parce que, comme je l'ai dit, en fait, à un moment donné, on devait être deux pour les deux jumelles. Donc forcément, la grande, il y avait quelque chose de... Enfin, c'était plus dur de s'en occuper, avec tout le temps qu'on lui avait donné aussi avant l'arrivée des petites. Et du coup, au début, ça a été compliqué. Ouais, enfin, je crois que ça a été. On a eu des périodes de grande tension avec elle. Il a fallu qu'on cadre, qu'on mette beaucoup de cadres. Elle nous a beaucoup testé, mais bon, voilà. Après, les choses se sont apaisées aussi avec la.
Et je crois que vous avez pu en discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous en a dit ?
Elle m'a dit, elle m'a dit que maintenant là, elle les aime très fort, quoi, et que quand elles sont par là, quand elles partent, elles lui manquent beaucoup, beaucoup, comme l'univers. Elle m'a dit. Voilà, et quand je lui pose la question si on les rend à la maternité, elle me dit non, regarde, je veux pas les rendre. Voilà, donc maintenant, voilà, je crois que les places maintenant sont trouvées, et c'est beaucoup plus facile pour nous d'accorder du temps à chacune. Voilà, voilà, on y arrive mieux, je crois.
Donc ça, c'est dans la fratrie. On va écouter maintenant ce que ça peut être le vécu de jumelles ou de jumeaux. On va entendre Maëlle à ce sujet. Maëlle, qui est l'aînée de Sarah, qui est en studio avec nous et qui a 16 ans.
Être sœur jumelle, c'est d'avoir quelqu'un qui est né le même jour, a le même âge et te ressemble. Pas forcément énormément, mais qui te ressemble quand même. Et c'est quelqu'un à qui on va forcément te comparer. Ce qui est agréable, c'est que on a le même âge, donc forcément on est un peu dans les mêmes délires. On voit les choses à peu près pareil. Niveau caractère, tout ça, je trouve qu'on n'a pas le même. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt.
Et ce qui est pénible,
C'est qu'on a le même âge. Enfin, au collège, on était souvent comparés. Du coup, le fait d'être au lycée et de ne pas être dans le même établissement, déjà, je peux faire semblant de ne pas avoir de frère. Et les gens s'amusent pas à savoir qui a les meilleures notes. Quand je suis pas avec mon frère, je suis libérée.
D'accord, donc on tombe à elle qui a ce besoin-là en ce moment d'être vraiment dissociée de son frère jumeau. Comme ça, comme le temps avance, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse entendre les enfants quand même. Donc on va écouter Laïsa et Baptiste, qui sont donc Laïsa aînée de deux frères jumeaux et Baptiste qui est le petit frère de deux grands jumeaux.
vu que c'est des jumeaux, ils ont souvent les mêmes idées, quoi. Et moi, vu que je suis plus grande, j'ai souvent pas les mêmes idées. Je suis toute seule, quoi, en fait.
Est-ce que tu crois que c'est différent pour les parents, ceux qui ont des jumeaux de ceux qui n'ont pas de jumeaux?
Oui, parce qu'ils sont plus excités, souvent, les garçons. Souvent.
Ah, alors le problème, c'est ça vient des jumeaux ou ça vient du fait que c'est des garçons?
Non, les deux.
Déjà, mon frère, il m'embête beaucoup. Il veut jamais jouer avec moi. Ma sœur, elle est gentille. Elle joue des fois avec moi et c'est tout.
Est-ce que tu aurais aimé avoir un frère ou une sœur jumelle, toi?
Oui, mais pas un frère.
T'aurais bien aimé qu'il y ait deux bébés en même temps qui arrivent après toi et que tu sois le grand frère?
Oui, parce que déjà, j'aimerais bien être grand et voilà.
Baptiste, il aimerait bien être grand et puis Laïzel, je sens un petit peu toute seule quand même.
Fallait mieux pas passer à côté de ces témoignages, t'as bien fait.
Ouais, franchement. Il y a quand même une maman que j'ai enregistrée que j'aimerais bien qu'on entende qui s'appelle Déborah et elle, pareil, elle parle des relations entre frères et sœurs. Elle a deux paires de jumelles donc qui ont 7 et 10 ans. On va l'écouter.
Comme tout enfant, il s'est dit ouais, mais pourquoi j'ai une sœur et tout, j'aimerais bien être avec maman. Donc, c'est important de leur accorder du temps aussi individuellement avec les parents. C'est soit proposer d'aller faire une petite balade avec maman ou aller à la bibliothèque ou aller faire des courses, soit avec papa. Ou soit ils vont deux fois aussi quand ils vont en week-end avec les grands-parents. Il y en a une qui va dire mais non, mais moi j'ai envie de rester. Il suffit que l'une soit absente, elle sent tout de suite le besoin. Ça fait un vide. On le ressent, elle commence à réclamer sa sœur et tout. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Donc voilà pour ces témoignages de fratrie. On va devoir passer rapidement à la présentation de l'association Jumeaux et Plus. On en a beaucoup parlé tout au long de l'émission, mais c'est important de vraiment de faire un petit point sur qu'est-ce que c'est cet asso, comment vous pouvez la solliciter et où elle se trouve, etc. Donc on vous mettra aussi tous les liens dans le descriptif de l'épisode, hein, si vous n'avez pas le temps de noter des numéros de téléphone ou des sites internet, pas de souci.
Je vous laisse commencer. Du coup, l'association, donc, c'est une association départementale avec un local qui est situé à Saint-Jean-de-Moiran. Pour nous contacter, vous pouvez appeler au 06 52 10 48 48. C'est moi qui réponds au téléphone. Les lundis, mardis, jeudi et vendredi, on peut aussi me contacter par mail, secrétaire@jumeauxetplus38.fr. Voilà, on essaye de maintenir une activité malgré la crise. Donc, on organise des cafés papotes, des réunions à l'hôpital, les réunions allaitement. Il y a une page Facebook, il y a un groupe privé Facebook. On est une association qui est vraiment pour du soutien moral et de l'entraide matérielle. Donc, aussi, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Et si vous avez des questions en tant que futurs parents ou jeunes parents, on est vraiment une équipe prête à vous soutenir. Voilà.
Donc on parle bien de soutien moral, ouais. Ça peut être des coups de téléphone, oui. Si ça ne va pas, et de soutien matériel aussi avec la mise à disposition de matériel de puériculture, et puis tout un tas de bons plans aussi par rapport à la CAF, les aides possibles, oui. Etc. Ouais. Donc vraiment c'est l'association référence sur la question de la gémellité en Isère et aussi en France. Il y a également un conseiller scientifique au niveau de cette association, au niveau de la fédération.
La fédération, oui, est une des rares associations familiales à bénéficier, à être dotée d'un comité scientifique qui regroupe différents spécialistes, gynécologues, statisticiens, psychologues, pédiatres, voilà, et qui sont intéressés par la gémellité. Voilà.
Ok, très bien. On va s'arrêter là.
Ça va être l'heure de s'arrêter, ouais. On est désolé, hein, mais
on aurait obligé de plein de choses à se dire.
Toujours, c'est comme toujours, une heure, c'est trop court, on le sait, hein, Flo. On le sait.
Ouais. Un immense merci à tous les parents pour leur partage d'expérience et leur bon plan. Encore une fois, moi, à chaque fois que je vous écoute, je me dis qu'on a vraiment des super pouvoirs. Les parents ont vraiment des super pouvoirs. On remercie l'association Jumeaux et Plus qui a mobilisé les adhérents et pour intervenir lors de cette émission. Et aussi Laure de la maison de quartier Ferdinand Texier de Saint-Martin-d'Hères qui nous a mis en lien avec Déborah qui aura le mot de la fin. On se retrouve comme toujours sur la page Facebook de Parents Live avec un S ainsi que sur parentslive.fr. Pour réagir à l'émission et pour proposer des sujets, écrivez-nous à parentslive.fr@gmail.com. Moi, j'avais envie de vous passer une petite info. On a eu des nouvelles de Gaël et d'Alex, qui sont deux papas qu'on a interrogés avec des futurs adoptants à l'époque. On les a interrogés en mars sur l'émission Parentalité Plurielle. Mm-hmm. Et ils nous ont annoncé la fin novembre qu'ils accueillaient leur petit garçon, donc comme un petit cadeau de Noël en avance.
Super.
On leur adresse toutes nos félicitations et on les invite, bien sûr, s'ils le souhaitent, à venir partager leur expérience de parents adoptifs sur une prochaine émission Parents Live.
Avec grand plaisir.
Ouais. Concernant notre actualité, on se démène pour vous sortir un nouveau site. On finalise notre exposition sur la place des pères et on s'emploie à mettre en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées les podcasts. On vous rappelle également que notre fil rouge de l'année concerne la place des pères. Donc, si vous avez un projet en ce sens ou si vous souhaitez témoigner, vous n'hésitez pas à nous contacter.
On se retrouve le 10 février, Flo, pour une émission consacrée à l'hypersensibilité, les amis. Et ouais, chez les enfants comme chez les parents. En compagnie de parents et de professionnels, on verra comment repérer ce trait de caractère, faciliter le quotidien et sensibiliser l'entourage. Donc, ce sera le 10 février, mercredi 10.
Voilà, et puis on laisse le mot de la fin à Déborah qui m'a presque engueulée quand je lui dis « mais c'était pas trop dur quand même ».
Merci à tous nos invités aussi.
Merci.
Au revoir.
Il ne faut pas que les jeunes parents de jumeaux, il ne faut pas qu'ils soient à la panique ou au débordement. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que j'ai remarqué après, à tout le monde, ah mais les jumeaux, ça fait beaucoup de travail. Vous vous rendez compte, la nuit, il faut se réveiller, passer des biberons. À partir du moment où on accepte cette logique-là, ça devient une fatigue qui se crée en nous. Faut se réjouir, faut profiter de ce bonheur-là. Voilà, c'est forcément que si tu as un enfant ou deux enfants, forcément il y a des choses à faire. Mais l'entourage n'aide pas forcément en disant oh ça fait beaucoup, vous êtes pas fatigué et tout. Il n'y a pas un livre écrit, mais tout s'apprend naturellement. On s'organise comme on peut, puis on profite de sa belle famille. Donc, faut toujours prendre les choses du côté positif.
Ok, voilà, parce que c'est vrai que pendant l'émission, on a beaucoup parlé des difficultés. Il y avait aussi ce témoignage-là qui disait que finalement, c'est aussi quelque chose de super chouette. Je pense que tous les parents qui sont là aussi peuvent le confirmer.
C'est magique.
Ouais, Claudine, il y avait plein de choses à dire autour du côté magique.
Ouais.
On vous réinvitera, promis.
Oui.
À refaire, on refait, en fait.
Ouais.
C'est ça l'idée.
Numéro 2.
Normalement, c'est ça, émission sur les jumeaux, deux fois. Désolé.
Oui,
je dis ça, je dis rien.
Normalement, voilà, t'as raison.
Voilà. c'est tout bon, merci et rendez-vous le 10 février. Ciao, ciao, le retour
ciao,
du
ciao.
Son.
Merci, au revoir. News FM.